Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, devant ta parole ce matin, accorde-nous, nous t'en prions, la grâce qu'aujourd'hui encore ta parole soit puissante, qu'elle nous parle, qu'elle nous conduise. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. L'Ancien Testament nous raconte que le roi Saül, au début de son ministère de roi, était un homme timide. Mais il a goûté au pouvoir, il a goûté à la richesse, et rapidement, il a trouvé que c'était bien d'être roi, et que finalement, il réussissait fort bien à régner sans avoir besoin des conseils de Dieu et du prophète. Finalement, avec les années, le roi Saül, nous raconte les Écritures, est devenu un roi qui avait mis Dieu de côté et qui était devenu méchant. Dieu avait choisi pour le remplacer un petit berger, David, celui qui allait délivrer le peuple en allant tuer le géant Goliath. Vous vous souvenez de cette histoire? Mais évidemment, lorsqu'on établit un roi, le roi s'attend à ce que, une fois qu'il sera mort, ce soit ses enfants qui règnent à sa place ou quelqu'un de sa famille. Dieu en avait décidé autrement. Et Saül savait que ce ne seraient pas ses enfants qui régneraient à sa place. David avait été choisi, c'était évident. La manière dont Dieu le protégeait, la manière dont il était gardé, les succès qu'il avait, montraient à tout le monde que David serait le roi. Dieu l'avait choisi. Mais une situation curieuse qui s'est développée, c'est que Jonathan, qui était le fils de Saül, est devenu le grand ami de David. C'est curieux parce qu'en réalité, Jonathan était celui qui devait monter sur le trône. C'est lui qui devait succéder normalement à son père selon les principes de la royauté en général. Mais Jonathan a très bien compris rapidement qu'il ne monterait jamais sur le trône parce que Dieu avait choisi quelqu'un d'autre. Et il a accepté que ce soit un autre, David, qui monte sur le trône à sa place. Et au lieu d'en faire son ennemi, il en a fait son ami. Si bien que Jonathan était l'ami de David, mais le père de Jonathan, Saül, était l'ennemi de David. Et Saül a voulu traquer David comme une bête sauvage. David est parti se cacher avec ses amis dans les montagnes, il s'est retiré. Plusieurs fois, David, vous vous en souvenez, a réussi à s'approcher de Saül pendant qu'il dormait. Il aurait pu le tuer d'une façon très rapide, très simple, très discrète, très propre. Ses amis d'ailleurs le poussaient à faire ça. Vous vous souvenez comment une fois il a coupé un morceau du manteau de Saül et de loin lui a montré « C'est à toi ça ?» Et vous imaginez Saül qui réalise tout d'un coup que David était à côté de lui, qui lui a coupé un morceau du manteau et qu'à la place il aurait facilement pu lui couper la gorge. Un jour, pendant que Saül dort, il va chercher sa gourde, sa lance. Et de loin il lui dit « Dis donc, t'as perdu tes affaires là ?» Saül réalise que cette lance, il aurait pu l'avoir en travers de la poitrine. David a respecté celui qui avait été oint pour le service. Un jour néfaste, les Philistins vont attaquer le peuple d'Israël. Saül a depuis longtemps rejeté Dieu, Dieu ne lui parle plus, il n'entend plus Dieu, d'ailleurs il n'en a pas besoin. Mais voilà que les Philistins attaquent le peuple d'Israël et Saül se rend compte qu'il ne pourra pas faire grand-chose. Il se sent pris au dépourvu, mais obligé d'aller combattre, et il part à la guerre vaincu. Et effectivement, ce jour-là, Saül va mourir, mais Jonathan aussi va mourir, beaucoup d'hommes de l'armée d'Israël vont mourir. Quand la nouvelle arrive au palais, c'est la panique. Non seulement le roi est mort, mais celui qui normalement devrait être son successeur, son fils aussi, une bonne partie de l'armée est en déroute. C'est la panique au palais à Jérusalem. La famille de Saül ramasse ses affaires et se sauve. Jonathan avait dans le palais son fils, un petit garçon de 5 ans. Sa nourrice, dans la panique, l'attrape, prend quelques affaires pour se sauver. Elle a dû sans doute louper une marche. Elle est tombée. Elle est probablement tombée sur le petit garçon. Et le petit garçon a eu les deux pieds cassés. Il a dû drôlement pleurer, comme on disait tout à l'heure. Mais il fallait fuir. Alors elle est partie avec cet enfant, 5 ans, les deux pieds cassés. On n'a pas opéré, on n'a rien fait, ses pieds se sont ressoudés de travers. Et ce petit garçon est devenu boiteux, handicapé à vie. Il s'appelle Méphibosheth. Ça, c'est un nom que je vous suggère aux mamans qui attendent un enfant. Un joli nom. En fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que son nom reflète malheureusement la situation dramatique qu'il a vécue, parce que son nom semble vouloir dire celui qui répand la honte. Pensez donc, il est fils de roi. Et voilà ce petit garçon handicapé qui doit marcher avec des béquilles, qui se traîne, pousse un pied et pousse l'autre. Méphibosheth. Maintenant, Saül est mort à la guerre. Jonathan est mort à la guerre. Et par conséquent, David, que Dieu avait déjà choisi, qui avait déjà été oint roi, va pouvoir s'installer sur le trône d'Israël et peu à peu conquérir la confiance et l'amour aussi de ce peuple-là. David, c'est le berger, c'est celui qui vient des verts pâturages. Et tout le monde le connaît comme celui qui a vaincu le géant Goliath. Une chose comme ça, c'est un spectacle qu'on n'a pas vu tous les jours. Un jeune adolescent qui, avec une pierre, fait tomber un géant par la grâce de Dieu. Il le savait. D'ailleurs, il avait dit que c'était au nom de l'Éternel qu'il y allait, pas en son nom propre. Et ainsi, dans tout le royaume, on connaît David, le berger courageux qui a tué le géant Goliath. Et voilà que David devient roi. Les années passent, David s'installe, il se construit un palais. Vous savez que David aussi va construire un temple. Il voudrait, il en fait les plans. Il prépare les travaux. Il installe en tout cas le royaume, lui donne une structure, une organisation. Et un jour, David, dans son palais, réfléchit et se dit, mais enfin, voilà tant d'années que mon ami Jonathan est mort. Il avait fait un pacte avec Jonathan parce que il appréciait Jonathan. Il le respectait énormément. Jonathan, d'ailleurs, lui avait sauvé la vie une fois ou deux. Et tout d'un coup, David se dit, mais y a-t-il quelque part une descendance à Jonathan? A-t-il des enfants? Alors, il va demander qu'on fasse une enquête et qu'on cherche à savoir si Jonathan a des enfants encore vivants. Et on va lui dire, oui, Jonathan a un fils. Jonathan a un fils qui habite, oh, loin d'ici, à l'autre bout du pays, dans un petit village qui s'appelle Lodébar. Ce petit village se trouve à l'est du Jourdain, loin d'ici. Et ce petit village a un nom qui probablement parle et dit long sur l'endroit où il se trouve. Lodébar veut dire pas de pâturage. Et je peux le comprendre parce que là-bas, du côté de l'est du Jourdain, c'est la porte du désert. Et je peux imaginer que Méphibosheth a trouvé un refuge dans ce petit village. Et selon l'enquête que David a menée, Méphibosheth habite chez un certain Makir, dans ce village de Lodébar. Cette nouvelle réjouit vraiment David. C'est une bonne nouvelle. Alors il dit, allez donc me chercher Méphibosheth, amenez-le dans mon palais s'il vous plaît. Alors les serviteurs de David s'organisent et ils partent. Ils vont à Lodébar, un cortège royal s'il vous plaît. Méphibosheth, en location dans une cabane quelque part à Lodébar, vit une petite vie cachée. Vivons heureux, vivons cachés. Et c'est ce qu'il fait. Personne ne sait où il est. Oh, il n'est sûrement pas riche, il ne doit probablement pas avoir grand-chose. Il n'a sûrement pas une pension de fils de roi. Près du désert, prêt à y fuir si c'est nécessaire. Dans un village qui s'appelle Pas de pâturage. Et un jour, Méphibosheth est dans sa maison. Il est là sur le seuil de sa maison et il se balance dans son rocking chair, laissant passer les années. Il a eu lui-même des enfants et il entend du bruit. Et il voit arriver les motards dans son village. Et il voit arriver une, deux grandes Mercedes noires qui arrivent de Jérusalem, avec des gens en uniforme. Ouh, quelqu'un vient par ici, et figurez-vous, les motards arrivent. Ils arrêtent les sirènes devant sa maison. Les Mercedes arrivent, elles se garent là, des gens, costumes, casquettes, sortent. Nous cherchons Monsieur Méphibosheth. Et avant de dire « c'est moi », il réfléchit. Il n'a pas besoin de dire que c'est lui, ça se voit. Ses jambes sont toutes tordues et à côté de son rocking chair, il y a deux cannes. « Vous êtes Méphibosheth ?» « Oui. » « Le roi David nous envoie spécialement de Jérusalem pour vous inviter à sa table. » « Oh oh !» Les motards, les Mercedes, les hommes en uniforme, les soldats. Méphibosheth se dit, ça sent mauvais. Je suis le dernier représentant de la famille de Saül. Et maintenant, voici que le roi veut exterminer tout le monde dans cette famille pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui va relever la tête. Et l'invitation lui adressée, « Monsieur Méphibosheth, le roi vous attend. Il est désireux de vous rencontrer, il est heureux de vous voir. » Méphibosheth, dans sa tête, a dû se dire, « Mon œil, ça c'est un beau piège. » Une cage dorée avant la tombe et un enterrement première classe. Méphibosheth, finalement, rentre dans la limousine noire, par la fenêtre, dit au revoir à sa femme et ses enfants et se dit « Bye bye les amis, au revoir. » On l'introduit, on lui donne à boire, on prend soin de lui. Climatisé la Mercedes, parce qu'il fait chaud en Israël. Un voyage de luxe jusqu'à Jérusalem sur les autoroutes d'Israël sans nid de poule. Méphibosheth arrive au palais du roi. Il y a là des soldats, des militaires en grande tenue. Les Mercedes arrivent, ils sont tous là, au garde à vous. Et Méphibosheth vient et sort avec ses cannes. Il a du mal à avancer. Il doit pousser un pied, pousser l'autre. Il est escorté d'une allée de gens en grande pompe. Et il se dit, qu'est-ce qui m'attend ? Qu'est-ce qu'il m'en veut? Je ne lui ai rien fait. Qu'est-ce que je peux lui faire? Je n'arrive même pas à marcher. S'imagine que moi, je veux monter sur le trône dans cet état-là. Imaginez un peu tout ce que Méphibosheth a comme idée qui passe dans sa tête. Et c'est vrai qu'il fait tache dans le décor. Il n'a peut-être pas les habits qu'il faut pour se présenter devant le roi. Et puis il y a là autour de lui plein de gens impeccable, net, propre, chaussures cirées. Lui, il arrive là, peut-être en sandales. Et on l'introduit dans la salle du trône. Et le roi descend. Le roi vient le voir, David lui vient le voir et l'embrasse. Il dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Et David lui dit, je suis content de t'avoir trouvé. Et vous voyez David qui prend du recul, qui regarde cet homme et qui regarde dans son visage, qui cherche dans son visage à retrouver les traits du visage de son ami Jonathan. Et il dit, oui, tu es bien le fils de Jonathan. Viens mon fils, et il l'embrasse, et il le serre, et lui dit, je suis heureux de t'avoir trouvé, viens, viens, viens. Et ils s'asseyent ensemble, et ils discutent. Et Méphibosheth ne sait plus trop ce qui se passe. Il y a des fauteuils rembourrés. On est bien, il fait frais. On lui apporte un jus d'orange avec une paille. Et David lui dit, écoute, quand je te vois, ça me rappelle les années que j'ai passées avec Jonathan, des années sensationnelles. Et David, tout d'un coup, ouvre le livre de sa mémoire et raconte à Jonathan ce qu'il a fait, les coups tordus qu'il a fait avec Jonathan quand ils étaient ensemble, et puis les épreuves qu'ils ont traversées. Et Méphibosheth écoute et il se rend compte que le roi a l'impression de donner, donne l'impression d'être ouvert, d'être content. Il est sur ses gardes, il n'est pas bien sûr de ce qui va arriver après ça. Est-ce qu'il va me demander quelque chose? Est-ce qu'il va m'acheter? Est-ce qu'après m'avoir raconté toute ma vie, il va me jeter dans un trou? Et David s'adresse à lui parce que David a dû lire quelque chose sur ce regard. Et cette parole de David se trouve dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 9. Dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 9 et au verset 7, il nous est rapporté ce que lui dit David. 2 Samuel chapitre 9 verset 7, David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Voilà, David joue carte sur table et lui dit, je t'ai fait venir à cause de tout le bien que Jonathan m'a fait. Ce bien-là, je veux le faire retomber sur toi. D'ailleurs, je te donne toutes les terres qui appartenaient à ta famille, elles sont à toi. Je te les rends. Méphibosheth a dû changer tout d'un coup d'état d'esprit. Il a dû se rendre compte que probablement ce n'était pas un piège et que David était effectivement bienveillant à son égard. D'ailleurs, David va donner à Jérusalem une maison pour Jonathan, pour Méphibosheth, fils de Jonathan. Et vous pouvez imaginer Méphibosheth qui repart avec la Mercedes, qui repart à Lodébar. Qui arrive à Lodébar, les motards s'arrêtent devant la maison, la petite baraque en bois. Et Méphibosheth sort avec ses cannes, un immense sourire jusqu'aux oreilles, pour annoncer à sa femme, à son fils, à ses enfants, « Les amis, faites la valise. On a une maison à Jérusalem. Le roi nous invite. Et en plus, le roi nous dit, « Tu mangeras toujours à ma table. » Oh, ça ne veut pas nécessairement dire que chaque fois que David va prendre son petit déjeuner, Méphibosheth sera là. C'est une expression de l'Ancien Testament pour dire que cet homme-là sera à sa charge d'une façon permanente jusqu'à la fin de ses jours. Le roi va pourvoir à tous ses besoins une pension royale héritée directement de David, roi d'Israël. Mes amis, ça c'est le gros lot. Il ramasse les petites bricoles qu'il a, les effets personnels. Il prend une photo de son père, qui est sur un cadre, sur la commode de sa chambre. Et puis il part, oh les vieilleries qui sont là, oublie ça, à Jérusalem, on a une maison, tu devrais voir. D'abord, nous sommes redevenus propriétaires des terres de la famille. et ils repartent. Derrière la Mercedes, il y a un U-Haul qui embarque toutes les choses. Et on arrive à Jérusalem. Méphibosheth s'installe à Jérusalem. Il est à la charge du roi. Il est dans la maison du roi. Mais il est encore ce perclus. Il est encore boiteux. D'ailleurs, il l'a dit au roi. Le texte qui suit celui que nous avons lu nous rappelle comment il a réagi à cette invitation de David. Il dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Il se présente à David comme un chien mort et David lui dit « Mais non, mon fils, tu es le fils de Jonathan, tu es mon fils, tu viens dans ma maison comme mes enfants. » Et Méphibosheth, nous dit le texte, sera dans la maison du roi jusqu'à la fin de ses jours. Je ne peux pas penser à cette histoire sans penser à celui que David représente. Le bon berger, le roi des rois, le fils de David qui est Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, il a aussi parlé dans ses paraboles de cette invitation qu'il adresse à tous les hommes. Vous vous souvenez de cette parabole qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 14, où il raconte cette histoire du festin, où un homme fait un grand festin et invite ses amis les plus proches à venir. Mais quand le festin est prêt, les uns et les autres déclinent l'invitation. Ils disent « Oh, écoute, tu sais, bon, j'ai acheté un champ, je ne peux pas venir, excuse-moi, hein. » Et puis, tu sais, je dois me marier, alors bon, je ne peux pas venir. Et puis j'ai acheté un champ, et puis j'ai acheté des bœufs, et puis je suis occupé à ceci, et puis je suis occupé à cela, puis j'ai des centres d'intérêt, et puis il y a ceci. Écoute, excuse-moi, je ne peux pas venir. Et vous vous souvenez comment le maître, qui est Jésus lui-même, répond à ses serviteurs. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 14, au verset 21, il est dit « Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amène-moi ici tous les méphibochettes que tu trouves dans la ville. » Et les serviteurs s'exécutent. Et la maison se remplit de tous ces boiteux, de tous ces handicapés. Et le serviteur lui dit, la maison n'est pas pleine. Alors le maître continue et parle dans le verset 23, va dans les chemins le long des haies, ceux que tu trouves, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit pleine. Le maître veut que sa maison soit pleine. Vous avez remarqué dans cette parabole, il y en a qui vont venir et qui seront contents de répondre à l'invitation du roi, mais il y en a d'autres. Le roi le sait, contrains-les d'entrer, va les chercher. Parce qu'ils vont avoir cette réticence qu'avait Méphibosheth. Méphibosheth voit arriver cette invitation du roi et dit « Oh non !» Parce que le roi, ils ne le connaissent pas tel qu'il est vraiment. Et puis, ils se sentent mal parce qu'ils sont boiteux, parce qu'ils sont estropiés, parce qu'ils sont tordus, parce qu'ils ont été déformés par le péché finalement. Et l'invitation du roi leur fait peur. Certains n'ont pas peur de l'invitation du roi parce qu'ils attendent avec impatience que le Seigneur Jésus les invite à rentrer dans sa maison. Mais il en est d'autres qui, recevant l'invitation du roi pour venir dans sa maison, ont peur de rentrer dans la maison du roi. Qu'est-ce qui m'attend dans la maison du roi? Un piège encore pour me coincer, pour avoir mon argent, pour que je perde ma liberté? Vous imaginez tout ce qui a pu rentrer dans la tête de Méphibosheth lorsqu'il a vu arriver l'escorte royale pour l'emmener au palais? Ce sont les mêmes sentiments que certains ressentent lorsque ils reçoivent l'invitation de Dieu à rentrer dans sa maison. Qu'est-ce qui m'attend? Certains ont peur d'entrer dans la maison de Dieu qui est aujourd'hui l'Église. qu'est-ce qui m'attend là-dedans? Et puis une fois qu'on est dedans, on est pris. Mais ils ne connaissent pas celui qui est le maître de l'Église. Je sais, le christianisme traditionnel a mis un homme à la tête de l'Église. Et je peux comprendre que dans une situation comme ça, on hésite à rentrer dans la maison de Dieu, si c'est un homme qui la dirige. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Vous vous souvenez que Jésus avait précisé d'une façon claire que c'est sur ce rocher qu'il allait construire son Église, sur le rocher des siècles. Et Jésus invite à faire confiance au rocher des siècles, pas aux hommes. Lisez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Nous lirons le verset 4. Ésaïe chapitre 26, verset 4 dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est sur lui que l'Église est construite. C'est lui qui en est le chef, c'est lui qui en est le maître, c'est lui qui en est le roi, c'est lui qui en est le bon berger. Et c'est ce roi-là, c'est ce maître-là, c'est ce Christ-là qui nous invite dans sa maison. Ce n'est pas la maison des hommes, c'est la maison du Christ. Alors si on connaît vraiment le maître, si on sait ce que le maître a fait pour nous, l'invitation dans sa maison ne doit pas nous faire peur. Le Seigneur Jésus n'a pas fait de ses enfants des enfants vagabonds. Le Seigneur Jésus n'a pas des vagabonds qui vont à droite, qui vont à gauche, à tout vent de doctrine, un peu ici, un petit peu là, le baluchon sur le dos, qui vont là où ça sent bon, là où on est gentil et qui vont un peu plus loin ailleurs. Le Seigneur n'a pas des enfants vagabonds, ses enfants sont dans sa maison. Et lorsqu'ils n'y sont pas, il les envoie chercher. Lorsque ses enfants ne sont pas dans sa maison, il les envoie chercher. Et c'est ainsi qu'il envoie ses enfants chercher les autres. D'ailleurs, vous vous souvenez dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 16, Jésus disait « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut, dit Jésus, que je les amène. » J'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oh, toutes les bergeries sont bonnes tant qu'ils sont dans des murs, c'est bon. Non, le Seigneur dit, il faut que je les amène. Le roi David, le bon berger, envoie son escorte pour aller chercher tous ses enfants qui ne sont pas encore dans son palais, dans sa bergerie, dans son église. Et lorsque le Seigneur vous appelle et vous invite, quelle réaction avez-vous? La réaction d'un Méphibosheth? Nous sommes tous des Méphibosheths, tous handicapés par le péché d'une manière ou d'une autre, tous malades d'une maladie ou d'une autre. Quelle est votre réaction lorsque le Seigneur vous invite à entrer dans sa maison pour faire partie de sa famille? Est-ce que vous réagissez comme Méphibosheth qui se dit « Ouh là là, encore un piège !» Ou est-ce que vous réagissez comme ces gens qui sont dans la rue et que les serviteurs du roi invitent et qui disent « Venez, venez, la maison du roi est ouverte !» Pour tous, pour les boiteux, pour les infirmes, pour ceux qui se sentent malades du péché, la porte est ouverte et qui viennent en flot, en masse pour rentrer dans la maison du roi. Ou bien est-ce que vous êtes parmi ceux pour lequel le maître a dit « Contrains-les d'entrer, ils n'osent pas, ils ont peur, ils ne savent pas ce que c'est. » Le Seigneur ne fait pas de ses enfants des vagabonds. Ce sont des fils et des filles dans son palais. D'ailleurs, le Nouveau Testament sous la plume de l'apôtre Paul, nous donne le même message. Regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Nous lirons ensemble le verset 19. Éphésiens, chapitre 2, verset 19, nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des gens du dehors, vous faites partie de la famille de Dieu. » Et le texte continue et nous parle de cet édifice spirituel qu'est l'Église, construit sur le rocher, la pierre angulaire qui est Jésus, ayant pour base le témoignage des prophètes, le témoignage des apôtres, sa parole. Sa parole fait loi dans l'Église, et c'est la raison pour laquelle nous y sommes en sécurité. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Alors le jour où le Seigneur nous invite, où le Seigneur envoie ses serviteurs pour nous inviter dans son palais, le jour où le Seigneur envoie ses serviteurs pour que nous devenions des gens de la maison de Dieu, faisant partie de ses enfants, que nous soyons boiteux, perclus, non, peu importe, il nous appelle à être ses enfants. Lorsque, enfin, nous réalisons que c'est une véritable invitation à faire partie de sa maison, à entrer dans l'Église, à faire partie des siens, à ce moment-là, on découvre que ce roi est véritablement le bon berger dont nous avons lu ce psaume tout à l'heure. Et pour tous ceux qui acceptent l'invitation du roi de rentrer dans son Église, dans sa maison, et de faire partie de ceux qui se donnent à lui entièrement, il y a cette joie d'être capable de pouvoir dire, dans la paix, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen.